Bonjour à tous. Emmanuel Macron a tenté de percer la bulle dans laquelle il s'était enfermé aux yeux du patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez. Surprise donc, hier en fin d'après-midi, le président de la République s'est invité à un débat citoyen dans la Drôme. Il a laissé entendre qu'il serait difficile de se passer totalement du glyphosate d'ici 2021. Pas étonnant, répond une association pour une agriculture durable. Jean-Dominique Senard quitte Michelin pour Renault et le nouveau président du premier groupe automobile français a des atouts. Voilà ce qu'estiment les spécialistes, vous l'entendrez. Dans cette édition aussi, nous irons à New York, à l'aube du 35e jour de paralysie budgétaire. Républicains et démocrates, s'ils ne sont pas encore tombés d'accord, reprennent les discussions. Et puis, qui est Juan Guaido, l'opposant vénézuélien qui s'est proclamé président face à Nicolas Maduro avant-hier? Un député de 35 ans qui ne négocie pas, vous l'entendrez. Une communication bien rodée et un président en invité surprise. Après avoir discuté avec une soixantaine de maires à Valence hier, Emmanuel Macron s'est rendu en fin d'après-midi, non loin de là, à Bourg-de-Péage, toujours dans la Drôme. Un débat citoyen était organisé avec environ 250 personnes. Le président de la République a notamment assuré lors de ce débat que se passer de glyphosate d'ici 3 ans serait impossible finalement. Il avait promis de bannir cet herbicide jugé cancérigène par l'OMS d'ici à 2021. Mais, dit maintenant Emmanuel Macron, il pourrait y avoir des exceptions. Pour François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future, l'engagement de départ du président n'en a jamais été un.
Je ne vois pas comment on peut dire que dans 3 ans, on n'aura pas d'alternative, etc. On a l'impression que déjà, on annonce un renoncement. Est-ce que ce sera 99%, 80%, 60% ou 30% ou rien du tout? On ne sait pas. Donc, surtout, pour nous, ça renforce des craintes qu'on avait déjà auparavant. Quand on a vu que pendant les discussions et le vote de la loi issue des états généraux de l'alimentation, la loi Egalim, il y a eu un refus d'inscrire dans le dur de la loi la sortie du glyphosate. On avait à l'époque tiré la sonnette d'alarme en disant, mais attendez, ne pas le mettre dans la loi, c'est ouvrir les portes vers un possible renoncement, alors que le mettre dans la loi, c'est s'engager. Et aujourd'hui, on commence à annoncer qu'on ne sera pas à 100%, etc. Donc demain, on va nous dire quoi? Je ne sais pas. Le glyphosate est dangereux, le président de la République l'a reconnu, et il doit être retiré du marché le plus rapidement possible.
François Veillerette de Génération Future, en réaction donc aux propos d'Emmanuel Macron hier lors d'un débat à Bourg-de-Péage, à l'extérieur de la salle par ailleurs hier. Un périmètre de sécurité a tenu à distance quelques dizaines de gilets jaunes. Ils souhaitaient participer au débat. Les lanceurs de balles de défense seront-ils intégrés dès demain? Alors que se profile l'acte 11 des Gilets jaunes, une nouvelle mobilisation ce week-end, la CGT et la Ligue des droits de l'homme ont demandé en urgence l'arrêt de l'utilisation de ces armes par les forces de l'ordre. Devant un juge administratif hier, la représentante du ministère de l'Intérieur a défendu ces armes. Le maintien de l'ordre, a-t-elle rétorqué, ça ne se fait pas avec des hochets. Le tribunal administratif de Paris devrait rendre sa décision aujourd'hui. Et à Toulon, l'inspection générale de la police nationale devra établir si des lanceurs de balles de défense, justement, ont gravement blessé à l'œil un jeune homme de 25 ans. C'était il y a 2 semaines à Toulon lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Le parquet de Toulon a saisi l'IGPN. De nouveaux soupçons de contamination au salmonelle et un nouveau rappel. Des boîtes de lait infantile de la marque Modilac doivent être rendues. Et ce, après le signalement de 4 cas de salmonellose chez des nourrissons en France. Exit Carlos Ghosn, voici un tandem à la tête du groupe automobile Renault. Jean-Dominique Senard de chez Michelin en devient le président. Thierry Bolloré, lui, est promu directeur général chez Renault. La priorité de cette nouvelle direction est de retrouver de la sérénité au sein du groupe. D'ailleurs, Jean-Dominique Senard est réputé être à l'écoute, chantre de l'entreprise libérée. C'est donc un bon choix, selon Frédéric Marquette du cabinet EIM. Il est spécialiste du recrutement des grands patrons.
Il y a d'abord une direction bicéphale, ce qui est effectivement une bonne chose puisque Thierry Bolloré pourra assurer la continuité opérationnelle. Mais ça me paraît important d'avoir quelqu'un qui vienne de l'extérieur et avec un style différent, parce qu'aujourd'hui, il y a tout de même un gros problème de confiance. Un problème de confiance interne, les réactions du personnel de Renault par rapport sur les rémunérations et avantages de leurs dirigeants. Et surtout, il y a un problème de relation et de confiance entre Renault et Nissan. Il y a un climat qui est aujourd'hui malsain, une méfiance réciproque, inévitablement. Et donc, par rapport à ça, d'avoir un dirigeant qui est indépendant, qui ne soit ni Renault ni Nissan, qui ait une virginité, une neutralité par rapport à les deux partenaires, qui soit indépendant par rapport aux équipes passées, c'était quasiment incontournable. Jean-Dominique Sénard a également une stature internationale qui est indispensable effectivement pour les discussions et les relations entre Renault et Nissan, et une image de probité qui, dans ce contexte-là, est effectivement absolument déterminante. Un peu en interne au sein du personnel de Renault, mais beaucoup également vis-à-vis de Nissan.
Frédéric Marquette, il répondait à Anne Lorchouin. Un 35e jour de shutdown débute aux États-Unis. 35e jour de paralysie partielle du budget et donc des administrations fédérales. La faute au non-accord autour du mur exigé par le président Donald Trump, le mur entre les États-Unis et le Mexique. Hier au Sénat américain, deux textes, l'un républicain, l'autre démocrate. Deux textes n'ont pas obtenu les 60 voix nécessaires pour une sortie de crise. Un nouvel échec qui pourtant montre également la volonté de part et d'autre d'avancer, Loïc Loury.
À Washington, les négociations ont repris entre démocrates et républicains. Donald Trump a beau répéter son mantra « sans un mur », dit-il, « impossible de garantir la sécurité à la frontière », le président a lui-même affirmé qu'il soutiendrait un accord raisonnable. Pour sortir temporairement du shutdown, les démocrates proposent donc une loi de financement de 3 semaines. Le temps de discuter, la Maison-Blanche, elle pose une condition, un gros acompte pour le fameux mur. L'opposition, de son côté, défend l'idée d'un smart wall, un mur intelligent, comprenant drones, capteurs, clôtures, mais pas de structure en dur, insuffisant pour l'instant, mais l'esquisse peut être d'un compromis. Il faut dire que Donald Trump, arc-bouté sur ses positions, commence à être sérieusement sous pression. 800 000 fonctionnaires ne vont pas recevoir leur chèque une seconde fois depuis le début de la crise, sans parler des sous-traitants qui ne seront eux jamais rémunérés. Reste que le président continue d'envisager une autre voie, la proclamation de l'état d'urgence, qui lui permettrait de contourner le Parlement et de financer son mur. D'après CNN, la Maison-Blanche travaille déjà sur un texte. On parle de 7 milliards de dollars. Mais cela engagerait le pays dans un nouveau bras de fer très incertain.
Loïc Loury depuis New York. Les États-Unis qui s'opposent frontalement toujours au Venezuela de Nicolas Maduro. Ils soutiennent l'opposant Juan Guaido qui s'est proclamé président par intérim avant-hier soir. Hier soir, ce même Juan Guaido a dit vouloir de nouvelles élections au plus vite dans le pays. Il a 35 ans et s'oppose farouchement au président Nicolas Maduro qui, lui, bénéficie du soutien de l'armée vénézuélienne. Invité du journal de France Culture à 22h hier, Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, spécialiste du Venezuela. Et au micro de Stanislas Vazak, il a dressé le portrait politique de cet opposant, Juan Guaido.
C'est un homme qui fait partie de cette coalition qui, historiquement, est plutôt orienté à sa base sociale dans les classes possédantes. Au sein de la coalition vénézuélienne, son parti est un des partis les plus intransigeants contre Nicolas Maduro. Clivage gauche-droite, c'est compliqué, hein, parce que la politique de Nicolas Maduro est réellement de gauche, c'est quelque chose qui pourrait être largement débattu. Ce qui est clair, c'est que son parti, Voluntad Popular, c'est l'un des partis qui est membre de l'Internationale Socialiste, mais qui est aussi le plus intransigeant. Il y a d'autres partis membres de l'Internationale Socialiste au Venezuela qui sont partisans d'une conciliation avec le gouvernement Maduro, de négocier des postes de pouvoir à Nicolas Maduro. Le parti Voluntad Popular est celui qui est la stratégie la plus insurrectionnelle, la stratégie la plus activiste contre Maduro, et cette stratégie se voit bien dans l'autoproclamation de Juan Guaido et son appel à la communauté internationale et son appel à engager un bras de fer avec Nicolas Maduro.
Voilà un début d'accord et une avancée. Les institutions européennes se sont entendues hier pour améliorer les conditions des congés parentaux et des congés de paternité au sein de toute l'Union européenne. Les pères auraient ainsi droit à 10 jours de congés paternité après la naissance de leur enfant, 10 jours rémunérés à hauteur de la prestation de maladie. Cet accord provisoire doit maintenant être adopté officiellement par le Parlement européen et par le Conseil européen. La carte de Météo France pour ce vendredi est assez claire. Un grand soleil jaune est visible sur tout le quart sud-est du pays. Partout ailleurs, le gris des nuages se mêle aux gouttes de pluie attendues dès la matinée de l'Île-de-France jusqu'aux Pyrénées. Les éclaircies vont gagner le Grand Est dans l'après-midi. Ce matin, comptez moins 2 degrés à Strasbourg, 1 degré à Lille et Lyon, 3 à Paris et Limoges, 7 degrés en bord de Méditerranée et 8 degrés à Nantes et à Bayonne.